Salut à tous et bienvenue dans Tech Café. Tech Café, vous le savez, c'est le successeur de Tablette Café, le nouveau format qui vous parle de tech et de tous les usages de la tech. Nous sommes le 30 septembre 2014 et nous enregistrons donc le deuxième épisode. Salut à tous et merci de nous rejoindre pour ce deuxième épisode de Tech Café. J'espère que je vais pas trop faire de lapsus. On avait fait dans le premier épisode, on appelait ça Tablette Café. Les habitudes ont la vie dure. Vous me corrigerez, messieurs, si je dis des bêtises. Et je dis messieurs parce qu'on va bousculer un petit peu les habitudes. On n'a pas les intervenants habituels dans Tech Café. On retrouvera Pierre-Olivier, Cédric et Guillaume le prochain épisode, dans 15 jours. Mais on vous a concocté un épisode qui change un petit peu de ce que vous avez l'habitude d'entendre. J'invite ce soir deux personnes qui vont avoir des points de vue qui vont chacun exposer sur une thématique qu'on va vous présenter très rapidement. Je vais commencer par toi, Will. Bonsoir, Will.
Mais bonsoir, bonsoir Guillaume.
Alors merci beaucoup de nous rejoindre. Certains
ça me fait
auront
plaisir.
Reconnu ta voix.
Peut-être.
Probablement.
J'espère, ça me ferait plaisir.
J'espère aussi. Mais malgré tout, il est probable que certains ne sachent pas qui tu es. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Alors, je suis animateur d'une émission, d'un autre podcast, ça tombe bien, qui s'appelle Will & Co, WAC, que vous pouvez retrouver sur willandco.fr, sur YouTube, sur iTunes, un peu partout. Et accessoirement, je suis à côté graphiste indépendant et je fais des sites web notamment et des designs par-ci par-là. Voilà.
Et tu es passionné par la tech, on avait eu des échanges
il
y a de ça quelques temps déjà, on essayait de chiffrer à peu près, mais je pense que ça fait même plus que ce qu'on disait, plus de 2-3 ans.
Oui, tout bien réfléchi, je pense qu'on se connaît depuis longtemps Guillaume,
en fait,
qu'il y a quelque chose entre nous.
On avait échangé à l'époque, c'était dans le cadre de Will & Co, mais tu m'avais déjà dit que tu étais passionné un peu par la tech, et visiblement ça n'a pas changé, donc on va pouvoir en parler en détail. Et puis, alors j'allais dire à tes côtés ou face à toi, on va voir comment ça se présente, j'accueille Aurélien. Bonsoir Aurélien.
Bonsoir, bonsoir.
Alors Aurélien, probablement les gens ne connaissent pas forcément bien ta voix, quoique on l'entend régulièrement, notamment sur des vidéos. Alors est-ce que tu peux toi aussi nous dire qui tu es?
Oui, alors effectivement, donc j'ai une petite nouvelle chaîne YouTube que j'ai commencé il y a environ un an, on va dire, quelques mois. Alors en plus, comme je fais ces vidéos-là en anglais, donc j'ai tendance à avoir l'impression que ma voix est assez différente en français et en anglais, donc effectivement, je le prendrais pas mal si les gens me reconnaissent pas. Donc voilà, donc c'est une chaîne YouTube que j'ai lancée en fait initialement pour présenter un peu comment moi j'utilise certains produits Apple, en majoritairement l'iPad, puisque à côté de ça, j'ai pas encore de boulot, je suis simplement étudiant, je fais de la physique. Et donc voilà, j'utilise l'iPad un peu tous les jours et il s'est avéré que c'était plus simple au bout d'un moment de faire des vidéos pour expliquer tout ça que de répondre toujours la même chose sur les forums. Donc voilà, j'ai commencé cette chaîne et bon, ça se continue maintenant aujourd'hui avec les nouveaux produits.
Voilà. Et c'est des vidéos, alors si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder, évidemment vous verrez la chaîne YouTube dans les notes de l'émission, mais c'est une chaîne vidéo plutôt très soignée. J'allais dire que tes vidéos sont quand même très bien faites. C'est pas les vidéos faites au smartphone à l'arrache. En tout cas, si tu les fais avec un smartphone, c'est sacrément bien fait.
C'est fait avec un smartphone, oui, effectivement. C'est fait avec un iPhone.
Comme quoi. Alors, je suis sûr que t'avais anticipé pour
moi. Oui, j'avais un peu anticipé.
Et effectivement, on voit que tes tests sont assez poussés parce que tu fais pas que de la prise de notes manuscrites. Tu prends aussi des notes de formules physiques super compliquées où personne comprend rien. Si ça se trouve, tu marques d'ailleurs n'importe quoi. Personne.
Absolument, oui, je pourrais bien raconter n'importe quoi. Ouais.
Et donc voilà, mais écoute, merci beaucoup Aurélien de te joindre.
Bah, merci pour l'invitation.
Il faut le dire, Aurélien il défie les lois de la physique ce soir parce qu'il quand même il discute avec nous en 4G.
Absolument. Quand même... ouais.
Non, mais c'est incroyable et ça marche pas mal.
Ça marche plutôt pas mal pour le moment.
Ouais, on avait eu des épisodes de Tablette Café qui s'étaient passés à travers l'Atlantique avec une personne qui intervenait au Canada en 4G à l'époque où ils avaient la 4G là-bas plus tôt que nous et ça marchait vraiment pas aussi bien. Donc ça a bien évolué aussi.
Ouais, voilà.
Bon, messieurs, sans autre forme de procès, je vous propose qu'on passe dans le cœur de notre émission et qu'on parle vraiment de ce qui nous passionne, de la tech. On va commencer par faire un petit aparté avant de débattre ensemble. Il y a juste au moment où on enregistre la conférence Microsoft, pardon, qui vient de se dérouler. Alors on en a parlé quelques mots. Je vous avoue que moi je l'ai pas bien suivi. Pour autant, toi de ton côté, Will, t'avais juste pu relever quelques éléments. Est-ce que tu veux nous relayer quelques éléments qui t'ont marqué de ce que tu as vu déjà?
Ouais, alors j'ai regardé ça, j'ai suivi ça en diagonale, hein, mais j'ai quand même suivi du début à la fin, mais j'ai fait des allers-retours un petit peu pour voir ce qui se passait. C'était une conférence, mine de rien, assez intéressante sur deux points qui m'ont marqué. Le premier, c'est le nom. Je pense que ça a marqué tout le monde, parce qu'on est passé quand même de Windows 8 à Windows 10. On ne sait pas où est passé le 9, mais ça, je trouve ça formidable. C'est vraiment, ça, c'est encore une communication. Ah,
ils ont encore voulu copier, hein. C'est ça, je crois.
Non, je pense.
Je voudrais pas commencer à troller tout de suite.
Non, mais je t'ai laissé. Tu auras remarqué, je me suis retenu depuis tout à l'heure. C'est toi qui as commencé le troll. Et voilà. On voit bien de quel côté que ça commence, hein, le troll.
Tout de suite, hein, comme ça, c'est fait.
Non, mais t'as bien raison. Non, mais je pense que bon, très honnêtement, a priori de ce qui se dit, hein, je pense que c'est ça le fait d'avoir appelé ça Windows 10 et pas Windows 9, c'est simplement pour s'éloigner d'un point de vue marketing de Windows 8 qui a pas été forcément le succès, qui a pas rencontré un succès formidable, en tout cas auprès du public. Donc là voilà, il s'éloigne. On a l'impression qu'il y a vraiment une version qui est passée entre, et au moins ça va peut-être permettre de brouiller un peu les pistes pour les gens non qui sont pas vraiment dans la tech, qui verront ça comme bon, une nouvelle version de Windows, mais peut-être pas forcément la suivante. Donc bon, je ne sais pas trop cette histoire-là. Mais sinon, un point qui était intéressant et très rapidement, c'était le fait qu'a priori là, on arrive vraiment à cette uniformisation de Windows qui avait été amorcée avec Windows 8. Donc déjà, on commençait à avoir la même interface un peu partout. Mais alors là, ils ont poussé encore le truc, puisque ce serait vraiment le même Windows. Windows 10, du coup, sortirait en même temps sur toutes les plateformes. Donc c'est-à-dire Windows 10 sur smartphone et sur desktop et sur tablette de fait. Et ce serait a priori plus ou moins la même version de Windows. Enfin, plutôt moins que plus, je pense, surtout sur la version smartphone. Mais en tout cas, ça partagerait vraiment le même cœur et le même fonctionnement. Donc, c'est intéressant parce que là, on a vraiment ce côté vraiment fusion. Et aussi, a priori, j'ai vu une image avec Kinect. Donc, je ne sais pas si c'était du Kinect de PC ou si c'était de Xbox. Mais voilà, ils poussent vraiment l'écosystème où là, on a vraiment la même version partout. D'ailleurs, Windows Phone s'appellera uniquement Windows et plus Windows Phone, ce qui est quand même assez intéressant.
Oui, c'est, disons, à propos de l'uniformisation, c'est quelque chose quand même qui a commencé il y a quelques années pour Microsoft. Et l'idée à la base, bon, l'idée est assez ambitieuse de vouloir faire un système pour le gouverner tous, comme on dit. Et c'est un peu l'approche justement différente de ce que fait Apple. Et il faut avouer que jusque là, c'était quand même pas très clair et très très confus pour le grand public. Hein. Si on regarde par exemple sur la Surface, bon, personne comprend. Enfin, on prend un type dans la rue, c'est pas très clair sur la partie vraiment mobile, la partie pas mobile, ce qu'on utilise avec le touch et ce qu'on utilise avec la souris.
C'est exactement ce qu'ils ont réglé dans cette conférence. Le point qu'ils ont abordé, c'était l'idée que maintenant, il y avait un gros souci de bon, on va passer très longtemps là-dessus, je pense, mais il y avait un vrai souci d'utilisation effectivement entre le tactile et le bureau et le desktop. Et c'est vrai que on était forcé d'utiliser l'interface métro sur bureau, ce qui a embêté vraiment les gens qui étaient sur bureau. Et en même temps, quand on se retrouvait sur tablette, de temps en temps, on était confronté à du bureau alors qu'on avait envie que de l'interface. Donc c'était un peu compliqué à gérer. Là, ils ont réglé le problème. A priori, en tout cas, c'est ce qu'ils essaient de faire, puisque maintenant, de base, on a le bureau classique avec le menu Start qui est revenu.
Voilà, le vrai retour démarré, du menu Start, oui.
Le fameux retour du menu démarré, un peu à l'ancienne, avec un peu de métro dedans, mais quand même qui ressemble à ce qu'on avait à l'époque. Et en revanche, si par exemple, on a une Surface, donc la fameuse tablette qui fait en même temps ordinateur de Microsoft, si on est en mode desktop, donc on a le desktop qui s'affiche, et si on la déplug du clavier, et ben là, d'un coup, il y a un petit message qui s'affiche qui dit « Est-ce que vous voulez passer en mode tablette,
100% tactile,
en mode tactile, et puis là effectivement les applications d'un seul coup avec une très jolie transition s'adaptent, et puis on se retrouve avec un mode qui ressemble à ce qu'on avait avant sur les tablettes, et inversement quand on rebranche un clavier, il nous repropose de basculer, donc ça permet de se faire de façon transparente, et peut-être que c'est une solution qui est pas mal, ça m'a l'air en tout cas de régler pas mal de problèmes, on verra.
Oui, moi je trouve que c'est aussi une bonne chose d'un point de vue, moi c'est la partie plus tablette qui m'intéresse, mais c'est vrai que jusqu'à présent quand même c'était très schizophrénique comme OS.
Confus.
Donc là, oui, c'est ça. là j'ai vraiment l'impression qu'ils arrivent à quelque chose d'assez cohérent et de satisfaisant. Donc bon, ça aura mis le temps, mais c'est
il faut leur laisser le temps. Oui, ça, c'est pas construit en un jour.
Absolument. Non, mais ça, moi, c'est vraiment pour moi la Surface une des alternatives les plus crédibles, je trouve, à l'iPad. Et donc, ça m'intéresse bien de savoir ce qu'ils vont faire avec ça, en tout cas. Ouais.
Ben, messieurs, on vous sent en tout cas très intéressés. On sent que vous avez des choses à dire pour une conférence que vous avez suivie peut-être un peu du coin de l'œil. On sent que ça vous motive. Du coup, Aurélien, juste une question rapide. Du coup, tous tes tests, évidemment, comme tu l'as un petit peu dit, utilisent comme support l'iPad, sans doute parce que c'est ce qui correspond le mieux à ce dont tu as besoin, etc. Est-ce que tu as testé malgré tout les Surface Pro? Et je pense notamment à la Surface Pro à partir de la 2 ou la 3, je sais plus, celle qui intègre les stylos là, qui ont l'air quand même super intéressant en termes de reconnaissance ou en termes en tout cas de finesse d'écriture et de restitution de l'écriture.
Oui, alors bah justement, puisque tu évoques ça maintenant, je vais poser les choses tout de suite. C'est que moi, effectivement, je suis sur l'iPad et je prends des notes avec des stylets qui sont pas du tout faits par Apple, pas du tout prévus par Apple. Et donc, c'est toute la question qui revient régulièrement, y compris sur ma chaîne et dans les commentaires. C'est voilà pourquoi, après tout, se forcer entre guillemets à utiliser un iPad alors qu'on pourrait très bien avoir autant du côté de Samsung par exemple que du côté de la Surface. Les produits sont très intéressants. Ça va, je pense, ça va transparaître un peu dans tout le débat qu'on va avoir, mais pour moi il y a quand même le fait que c'est un tout, un produit qu'on utilise, et il n'y a pas que le fait d'avoir un stylet ou que le fait d'avoir telle fonctionnalité ou pas telle fonctionnalité. Mais du coup, d'un point de vue de la Surface, il y a aussi tout simplement le fait que pour moi un bon système est aussi un système durable, et il n'est pas envisageable, enfin j'ai ni le temps ni les moyens d'avoir toutes les tablettes à ma disposition. Effectivement, si c'était mon métier, ce serait bien aussi, mais c'est pas le cas. Donc oui, d'un point de vue test, j'ai fait comme tout le monde, hein. Je suis allé à la Fnac, j'ai testé, j'ai mis les mains dessus et voilà. Mais je suis un grand défenseur et je crois beaucoup au fait que, et c'est un peu ce que je fais dans ma chaîne, je crois beaucoup au fait qu'on ne peut pas parler d'un produit vraiment à 100% si on l'utilise pas un minimum dans sa vie de tous les jours. Et c'est pour ça que je me permets de donner mon avis sur l'iPad, et je me permets assez peu de finalement donner mon avis sur une tablette telle que la Surface, par exemple, à part pour dire ce qui me semble de façon évidente un avantage ou un inconvénient. Moi, voilà ce que j'ai dit au début, la schizophrénie un peu du système me semblait trop. Disons, voilà, c'est toujours pareil, quand on s'y connaît un peu, on comprend au bout d'un moment qu'il y a deux offices et qu'on peut installer les deux offices, mais c'est un peu confus et ça en faisait pas un très très bon produit pour moi. Après, voilà, ce que tu évoques avec les stylets, peut-être qu'on en reparlera, mais effectivement, nécessairement, parce que le stylet est fait avec la tablette, ça ne peut que être bon. Ce serait mauvais, que ce serait vraiment inquiétant, quoi.
Ouais. On rappelle effectivement, on le voit dans tous tes tests. D'ailleurs, c'est un peu la raison d'être même de tes tests, c'est que tu vas tester des produits qui évidemment sont pas nativement conçus pour fonctionner avec l'iPad. Donc, il y a des petites réserves. Écoutez, messieurs, je pense qu'on a bien posé l'intro. On a pris le temps de se dire des politesses, de se raconter notre petit.
Et maintenant, il va y avoir un combat. Là,
alors, on va passer au mode débat à la présidentielle.
On va
reposer rapidement les conditions du débat. J'avais déposé sur mon blog un des rares billets que je peux déposer, des espèces d'avis sur l'iPhone. J'avais en tout cas répondu avec un titre un peu provocateur, mais j'essayais de positionner ma réflexion personnelle en disant que l'iPhone, finalement, c'était certes un smartphone comme beaucoup d'autres, haut de gamme, mais qu'il avait ce caractère d'appareil de luxe, et que pour moi, c'était aussi une des raisons d'être de l'iPhone dans le marché des smartphones. C'est qu'on achetait aussi un produit de luxe. Alors bon, j'ai diffusé deux articles, je crois, sur le sujet. Et puis j'ai vu un débat s'installer. Vous devinerez bien entre vous deux, entre toi, Will et Aurélien. Pour être plus exact, je crois que c'est toi, Aurélien, qui a commencé à écrire un commentaire. Et j'avoue que ces commentaires m'ont pas mal parlé parce qu'ils étaient étoffés, qu'ils n'étaient pas gratuits et qu'ils étaient plutôt nourris d'arguments. Donc, ce qui est parfois suffisamment rare sur Internet pour être souligné. Donc, j'ai voulu organiser un petit peu ce débat, donc ce sera notre épisode 2. Si ce type de débat ne vous intéresse pas du tout, vous pouvez tout de suite arrêter d'écouter l'épisode, parce que vraisemblablement, on va parler que de ça. Il y aura malgré tout des coups de cœur, coups de gueule à la fin. Mais on va essayer d'argumenter un petit peu en prenant en compte les usages. C'est ce que tu disais, Aurélien, juste avant. C'est un petit peu ce qui est important à garder en tête pour nous, en tout
Absolument.
Cas. C'est les usages. Messieurs, première question d'entrée de jeu. On va prendre une question super simple sur un sujet super récent. L'iPhone 6 est sorti. Beaucoup d'avis montrent que cet iPhone est trop cher. Alors, est-ce qu'il est trop cher? Je vais te demander, Will, de peut-être prendre la parole en premier sur cet aspect-là, s'il te plaît.
Moi, utilisateur Android, je trouve que les iPhones sont trop chers. Moi, utilisateur Android, non, mais plus sérieusement, très honnêtement, très honnêtement.
Ça va être long, hein, pendant une heure, si on fait
la
ça
question,
comme ça.
La, mais je peux en sortir plein. Non, la question, la réponse à cette question, elle est, je pense qu'elle est claire et nette, et je pense que même Aurélien sera d'accord. Oui, l'iPhone est trop cher. Est-ce que c'est le problème? Est-ce que c'est un problème? Non. C'est-à-dire, voilà, l'iPhone, de fait, il est trop cher. Je crois que j'ai lu un article encore récemment, je crois que iFixit a encore dépecé le dernier iPhone. Je sais plus si c'était le 6 ou le 6 Plus, et à ouais, chaque fois, on a le prix des composants. Je crois qu'on est à peu près à $200, c'est ça, de composants, un truc dans le genre, sur les derniers modèles. On doit être aux alentours de $200. Bon, vendu entre 700 et 1000 balles, forcément, on voit un petit peu la marge. Alors bon, on pourra trouver des explications, mais clairement, c'est un téléphone qui est très cher, mais il peut se le permettre puisqu'il va viser un public qui est OK pour mettre autant d'argent. Et s'il se vend aussi bien, c'est que ça ne pose aucun problème. Mais clairement, rapport qualité-prix, oui, il est trop cher.
Alors, moi, c'était un petit peu mon sentiment. Alors, il y a le terme « trop » qui, de mon côté, parfois m'interpelle un petit peu parce que trop cher, finalement. Est-ce que c'est trop cher quand on achète un produit de luxe? A priori, quand on achète un produit de luxe, on sait très bien qu'il
y a... Non, de fait, non. Voilà, oui,
il est cher, en tout cas, et je pense qu'il y a une forme de reconnaissance, ou en tout cas, c'est mon point de vue, hein, évidemment, reconnaissance, ou en tout cas de positionnement, de classe sociale, une espèce d'image qu'on va renvoyer en ayant ce type d'appareil. Et à la limite, pourquoi pas? Je pense qu'on est tous d'accord.
Évidemment.
Du coup, toi, Aurélien, je percevais de par tes commentaires le fait que tu trouvais pas forcément que l'iPhone était trop cher, mais tu trouvais même que l'iPhone pouvait justifier en tout cas une partie de son prix de par une qualité quand même nettement différente des autres smartphones qu'on pouvait trouver.
Oui, alors sur le prix, j'ai un paquet de choses à dire. Alors, faudra m'arrêter si.
Faudra arrêter. T'inquiète pas, je m'en chargerai.
Il y a tant de paroles.
Tu coupes au montage, sinon. Mais je voulais dire plusieurs choses. Alors, déjà, ouais, je l'avais écrit ça dans le fameux document là qu'on prépare pour avoir un peu le sujet d'aujourd'hui. Je le reprécise, c'est que voilà, je suis majoritairement un utilisateur des produits Apple et je connais pas. Je peux faire des erreurs, beaucoup d'erreurs, et je vous fais confiance pour me corriger là-dessus sur tous les autres produits qui existent actuellement dans les autres marques. Mais du coup, bah, par exemple, voilà, au moment où tu nous as proposé de faire ce débat, je me suis rendu compte que finalement, je connaissais assez peu. Alors, je connaissais les autres produits quand même, parce qu'on voit des tests et autres. Mais par exemple, sur des détails comme le prix, j'étais pas du tout au courant. Alors, j'ai fait mes devoirs ce week-end. Je suis allé voir sur Internet.
Il a bossé, Aurélien.
Ah oui, j'ai bossé. Et alors, la première chose que je me suis rendu compte, c'est que c'est quand même un sacré bordel. C'est-à-dire que, si vous me passez l'expression, c'est tout public, c'est bon.
Aucun problème.
C'est-à-dire que, bon, quand on va sur... il y a plusieurs choses d'un point de vue du prix de l'iPhone. Déjà, il faut comparer dans des domaines comparables. C'est-à-dire, il faut bien voir qu'avec Apple... Alors, on est en France, hein. Donc j'ai fait mon petit calcul. La tournure de phrase est assez amusante. Je vous la retrouve pas loin. Ah oui, voilà. Donc vous savez qu'on a la fameuse taxe sur la copie privée.
Oui.
Parce que l'iPhone est un, je cite, si vous me laissez retrouver, l'iPhone est un, je cite, téléphone mobile permettant d'écouter des phonogrammes et de visionner des vidéogrammes. Voilà, ça valait le coup quand même de dire. Donc à cause de ça, mais comme n'importe quel autre appareil, hein, c'est pas spécifique à l'iPhone, mais c'est juste pour remettre dans le contexte, on se tape quand même 8 € pour le modèle entrée de gamme et 15 € de taxes supplémentaires.
D'accord. Après, sur 700 €, c'est parce qu'il...
Non, mais... Ça va aller. Donc déjà, si on veut comparer des prix... Il y a le deuxième argument qu'on entend souvent aussi, c'est ah là là, mais c'est scandaleux. Apple en Europe, en France en général, fait du 1 € égale 1 $. Alors c'est quand même pas tout à fait vrai, parce qu'il faut bien, je rappelle pour les gens qui ne le savent pas, je l'explique.
Enfin,
c'est vrai,
mais c'est justifié. C'est ça que tu veux dire.
C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est incorrect. C'est pas totalement faux, mais c'est pas vrai non plus. C'est-à-dire que les prix quand même qui sont sur l'App Store US sont hors taxe. Les prix qui sont sur le store
après,
français sont
taxes
tout...
selon les États.
Voilà. Donc, si j'ai fait mon calcul sur par exemple, le premier iPhone, vous enlevez la TVA, vous enlevez la taxe sur la copie privée, on remet tout on arrive à un prix en euros, on remet tout ça en euros et on compare avec le prix en dollars, il n'y a que, c'est quand même une grosse différence, mais il ne reste que 70 € de différence entre le prix français et le prix européen, et le prix US. Donc, ça donne.
Oui, mais si je peux me permettre, je pense que le débat il est pas au niveau de la comparaison entre le prix des États-Unis et en Europe.
Je parle de comparaison. Disons que pour moi, c'est un
argument. L'achète en Europe, moi, là, enfin bon.
Oui, tout à fait. Seulement, moi,
comparé aux produits qui existent à côté, je veux dire, je suis d'accord, il y a peut-être 8 euros qui partent dans la taxe de copie privée. Bon, bah, pour les Android, c'est pareil. A priori, on peut aussi écouter des phonogrammes et des vidéogrammes dessus.
Tout à fait.
Je crois. Écoute bien, même en MKV. Ah, mais ça, un jour, vous connaîtrez peut-être sur vos iPhones. Non, mais voilà, c'est après les.
J'en ai pas besoin, hein. J'achète, moi. Ah, ne rigole pas, c'est vrai.
Non, mais c'est très bien. Non, mais voilà, après, je pense que si on compare
au prix. En fait, la seule raison pour laquelle je voulais citer ça, c'est parce que pour moi, quand on compare les prix, il faut les comparer un peu dans le nid du truc, c'est-à-dire aux États-Unis avec des prix hors taxes. Le problème, c'est que c'est difficile de faire ça avec les prix qu'on a sur le store français, puisqu'il y a toute une déformation derrière. Voilà, je voulais juste citer ça. Et après, du coup, j'ai quand même essayé de chercher un petit peu les prix de. Alors, vous m'arrêterez si je me trompe, mais il me semble que les fleurons
les flagships comme on dit.
Voilà, les flagships, c'est ça. Qu'on trouve, bon ben par exemple, alors j'avais trouvé donc pas le S5 hein, qu'on va voir sur le site de Samsung. Alors déjà, il n'y a pas de prix quand même hein, faut bien le dire, sur le site de Samsung, il y a zéro prix. On est obligé d'aller les voir chez les opérateurs, on est obligé de gratter très 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 loin pour les trouver sans forfait. Et là, je tombe quand même sur $649.
Alors
OK. Pas... $649 pour un S5 qui est donc l'équivalent de je sais pas, au choix hein, dites-moi si c'est alors, plus un il me semble pas... que c'est plus le 6 plus.
Si je peux me permettre, c'est un peu simpliste là, encore ce que tu fais là, parce que moi à l'instant pendant que tu parlais, je me suis permis de taper Galaxy S5 sur Google et de cliquer sur le bouton shopping et je viens de voir que sur Pixmania par exemple.fr, tu trouves le Galaxy S5 à 400 euros.
Oui, non, mais alors voilà, c'est
500 euros, pardon.
Il est à 485 euros chez Amazon.
Je précise que c'est exactement pour cette raison-là que j'ai voulu parler des prix, de faire la transition de la France vers les États-Unis, parce que le fait qu'on puisse trouver, on peut aussi trouver l'iPhone moins cher en France. Tous les auditeurs qui écouteront ce podcast, bon, déjà merci d'écouter le podcast, et surtout je vous conseille par exemple d'aller il y a un site que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Consomac, qui donne des conseils d'achat et qui donne tout un tas de petites astuces pour avoir l'iPhone moins cher. Et on peut aussi trouver l'iPhone moins cher en France hein. Un opérateur comme Soch par exemple va en ce moment vendre un iPhone 6 avec quasiment entre 50 et 70 euros moins cher selon les périodes. Donc on peut aussi trouver des réductions comme ça, mais si on essaie de comparer le prix tamponné à la sortie de l'usine par le fabricant.
Oui, mais ça c'est un modèle, d'accord, mais ça c'est un modèle qui, enfin, c'est encore une fois, je veux pas faire mon pénible dès maintenant, mais comparer des, je veux dire, moi, faut comparer les prix à l'achat qu'on peut trouver en France. Moi, si je cherche un iPhone, je vais le voir à peu près toujours au même prix avec des réductions parfois, effectivement, chez les opérateurs de 50 euros, 60 euros par-ci par-là. Sinon, si je tape juste en cherchant sur n'importe quelle boutique, n'importe quel autre smartphone, je les trouve quand même à des prix qui sont, quoi qu'il arrive, plus bas. Il ne faut pas oublier que les prix aussi sont dégressifs. Les prix souvent baissent très rapidement d'un mois à l'autre avec du Android, ce qui n'est pas le cas avec de l'iPhone. Mais c'est deux marchés, c'est deux fonctionnements différents. Donc, je pense que
on en arrive à ce moment-là. Bah, c'est exactement la phrase que tu viens de dire. C'est que aussi, à côté de ça, voilà, il faut bien voir que c'est deux fonctionnements totalement différents.
Et oui.
Et je ne dis pas que je voulais juste, voilà. Parfois, quand on entend ce débat un peu de loin, on a l'impression qu'on peut trouver un iPhone 5, on peut trouver un S5 sur le bord de la route, alors qu'il faut faire, il faut être riche comme Crésus pour avoir un iPhone 6. C'est juste pour remettre dans le contexte. Mais pour répondre à la question, l'iPhone est-il trop cher? Pour moi, oui, selon les modèles. C'est-à-dire que.
D'accord.
Un entrée de gamme, alors on en parlera peut-être plus tard, je sais pas si on peut en parler maintenant, mais vendre un téléphone appeler un entrée de gamme un téléphone qui a 16 gigas de mémoire, pour moi, c'est du vol. C'est surréaliste en 2014. C'est surréaliste en 2014. Non mais c'est totalement surréaliste. Alors à propos de la mémoire quand même, parce qu'il y a ça aussi qu'il faut remettre en valeur, c'est qu'en général on compare deux téléphones qui ont la même mémoire. On a un peu mieux loti chez Apple que chez typiquement Samsung qui est assez mauvais là-dessus. Un téléphone, j'ai les sources hein, si vous les voulez, je n'invente pas, mais un téléphone. Alors c'était le S4, donc c'était un peu plus vieux, mais. Un téléphone, le Samsung, quand vous le sortez de la boîte, 16 gigas, il vous en reste plus que la moitié, en gros, une fois que le système est installé. Pas du côté de chez Apple, où il vous en reste plutôt 12 gigas. Mais bon, même sans parler de ça, pour moi, le 16 Go, l'entrée de gamme d'iPhone à 16 Go, c'est juste pas possible, quoi.
Alors c'est intéressant parce qu'on est en train de redéfiler, j'ai l'impression, les commentaires que vous vous êtes échangés. Donc, moi, je suis ravi, moi, qu'on les entende à l'audio et qu'on puisse échanger là-dessus. Alors, sur le stockage, d'ailleurs, juste un point pour rebondir sur les prix, hein. C'est vrai que les prix qu'on voit, enfin, moi, là, je voyais effectivement le S5 de chez Samsung, chez Amazon, c'est 485 €. Alors, je pense que c'est 16 Go. Bon. À noter aussi au passage que sur Android, on va pouvoir assez facilement et assez presque systématiquement, c'est pas toujours le cas, mais augmenter le stockage avec une carte SD, ce qui donne cette forme de liberté encore,
oui,
pas forcément sur iPhone. De ton côté, 16 Go, Will, c'est pas forcément quelque chose de rédhibitoire en termes d'usage.
Non, alors c'est marrant parce qu'effectivement, c'est un argument qui pour moi, effectivement, il avait... Quand on parlait de l'iPhone en 2007, quand il est sorti, et qu'on pouvait dire, oh là là, 8 Go, bon, c'était énorme à l'époque, mais... ce que je veux dire, c'est que ça faisait partie des progrès qu'il y avait au début des smartphones à partir du moment où l'iPhone est arrivé. Ça, je lui donne du crédit. C'est vrai que l'iPhone, il a quand même marqué, c'était le début de beaucoup de choses. Les points capitaux de changement des modèles de téléphone qui arrivaient, c'était systématiquement l'espace, donc le stockage. Donc, on avait de plus en plus. On passait jusqu'à 16 gigas. À l'époque, on était en extase devant 16 gigas. On trouvait ça formidable. Donc, ça grimpait. Aujourd'hui, je pense que si on reste toujours sur des ventes, quoi qu'il arrive, maximum, alors ok, l'iPhone 6 Plus, il va faire du 128 Go, mais de façon générale, on trouve des téléphones toujours entre 16 et 64 Go, de façon générale, toutes marques confondues. Si on va pas plus loin, je pense que c'est que au final, ça ne sert plus à grand chose. Et pour moi, c'est pas un élément déterminant. Moi, pour être honnête, moi, le prochain téléphone que je vais m'acheter, probablement, je vais prendre en 16 Go, parce que franchement, là, j'ai encore un vieux Galaxy Nexus, donc qui date de 2011. donc il commence à qui marche très bien, je suis très content. Il a figurez-vous la dernière version d'Android, c'est quand même incroyable. Et c'est un 16 Go et il faudrait que je regarde, tant que je vous parlais tout à l'heure, je vais regarder combien j'ai de stockage dessus, mais je fais énormément de choses dessus, j'ai beaucoup d'applications, je fais plein de choses, je travaille, je fais tout ce que je veux dessus et pourtant, j'ai encore largement assez de place. Pour moi, l'espace de stockage, si ce n'est pour les photos à la limite pour les stocker en local, si on fait vraiment beaucoup de photos, ça n'a plus aucun intérêt aujourd'hui avec le cloud. Alors, l'argument, les gens vont dire, oui, mais le cloud, ça marche pas, je suis pas d'accord. Franchement, il y a des solutions. Alors après que iCloud ne fonctionne pas, ça, je veux bien. Mais le cloud, de façon générale, ça fonctionne quand même vraiment pas mal. Moi, les musiques, ça fait depuis très longtemps que j'utilise Spotify et j'en suis bien content. Ça me stocke quasiment rien. Enfin, en tout cas, j'ai limité le stockage des musiques, donc ça ne me compte quasiment rien. Voilà, moi je peux tout faire et je n'ai absolument pas besoin de... Enfin, 16 gigas, moi ça me suffit amplement. Et pourtant, je suis un power user. Enfin,
alors,
je pense.
Je vais faire la transition, du coup, avant de laisser la parole à la gauche ou à la droite, j'en sais rien. Mais de mon côté, c'est vrai que j'ai tendance à plutôt aimer les gros espaces de stockage, tout simplement parce que j'ai tendance effectivement à stocker pas mal de photos. Je suis un gros photovore sur mes smartphones. En général, ils ont des bonnes résolutions, donc ça prend de plus en plus de place. Des vidéos en full HD, ça prend de la place. Et je télécharge des podcast, je suis aussi un gros consommateur de podcasts, donc j'aime bien avoir quelques épisodes d'avance de télécharger en local. Donc ce qui me prend pas mal de stockage. J'étais en train de réfléchir pour mon frère qui a pas forcément le temps ni l'énergie de comparer les smartphones, de regarder lequel correspondrait le mieux à ses usages. Et effectivement, pour ses usages à lui, j'anticipe bien le fait que 16 Go avec une connexion 4G de chez Free qui est vraiment très très large en termes de consommation et de bande passante, il va pouvoir synchroniser plein de choses sur le cloud et donc que potentiellement il a effectivement pas beaucoup besoin de stockage. Pour autant, toi de ton côté, donc je pense moi de mon côté que ça correspond vraiment aux différents usages, mais ça m'interpelle quand même, Will, de t'entendre dire que tu fais beaucoup de choses avec malgré tout en 16 Go. De ton côté, Aurélien, quelle est ta vision des choses? Tu dis que 16 Go pour toi c'est rédhibitoire, mais qu'est-ce qui prend tant de place en fait sur ton appareil?
Ouais, alors donc sur le coup des 16 Go spécifiquement sur l'iPhone, il y a quand même deux choses, c'est que le commentaire que je fais avant sur le fait que ça, pour moi c'est pas normal que l'entrée de gamme soit 16 Go, c'est déjà par principe. On est en 2014, on en est à l'iPhone 6, hein, le premier iPhone était quand même en 2007, je vous laisse faire le calcul. Donc c'est par principe pas normal parce que c'est juste une mesquinerie puisque le deuxième modèle qui est passé de 32 à 64 alors que le premier est resté à 16. Voilà.
Donc oui, puisqu'on parlait du... Enfin, c'est pas la seule mesquinerie, je veux dire, c'est comme
l'iPhone. Pour moi, c'est la mesquinerie.
Mais c'est comme il a fallu attendre un iPhone 6 pour avoir des écrans de plus de 4 pouces. Donc, je veux dire, alors que tous les autres.
Ça, c'est différent. ça c'est non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que c'est un positionnement d'un point de vue du marché. Le stockage, c'est comment dire, la taille de l'écran, c'est ça demande un qu'on ait une philosophie de comment on construit le téléphone, comment il va être utilisé par les gens. On le voit bien là justement avec la deuxième transition vers des nouvelles tailles d'écran. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Mettre 16 gigas de mémoire, ça ne demande rien, ça leur coûte rien. C'est vrai, voilà, si on doit critiquer pour moi le placement d'un point de vue du prix de l'iPhone, c'est pour moi c'est clairement là-dessus. Après sur l'usage, je reviens sur ta question, désolé d'être redévié là-dessus.
Non, vas-y.
Pour l'usage, eh ben en fait, moi je suis un des plus gros partisans du cloud et iCloud fonctionne très bien, surtout avec la version 2015 qui sont en train de nous préparer, 2014-2015 qui sont en train de nous préparer. Il y a eu beaucoup de ça on aura mis le temps hein, depuis que Steve Jobs nous a présenté iCloud il y a quelques
Certains
années.
Certains pleurent encore sur MobileMe.
Voilà, non, ça n'a pas été, c'est voilà l'éternel. Les 12 travaux d'Apple, on va dire. Mais donc, ça fonctionne très bien. Et puis, de toute façon, hein, même si on n'est pas content avec iCloud, il y a plein d'autres services de cloud. Et puis, le cloud, c'est très large. Hein, voilà, Spotify, on peut considérer effectivement que c'est
Dropbox,
cloud. Dropbox et autres. Dropbox est un très gros. J'utilise beaucoup Dropbox aussi. Mais moi, un de mes principaux problèmes, en fait, c'est que, par exemple, je travaille beaucoup sur mon iPad. Et on a l'impression, dès qu'on dit à des gens, tiens, j'ai des PDF. Alors, les PDF, ah bah oui, ça fait quelques mégas. Non, j'ai quand même au moins 1 ou 2 gigas de PDF juste de prise de notes. Ça prend une place folle. Alors le problème, c'est que 1 giga, effectivement, 1 giga sur un iPad qui en fait 32, ça passe. Mais dès que vous avez, après, vous prenez une application à la Pages, ou donc Pages, c'est l'équivalent de Word, en gros, hein, et Word ferait à peu près la même place, on va aller avoir quelque chose comme la centaine de mégas, donc 200, 300, peu importe, mais à la louche, la centaine de mégas. Et puis, vous avez trois applications, parce qu'il y a Word, PowerPoint et Numbers, et etc., etc. L'iPhone 6 et 6 Plus prennent des vidéos en 240 images secondes. C'est que du 720p, mais c'est 240 images secondes. Donc, je vous laisse imaginer le poids que fait juste une minute de vidéo faite à cette vitesse-là. Donc, pour moi, c'est ça le problème. C'est-à-dire que, oui, si on va toutes les semaines dans les réglages, et qu'on moniteur, enfin qu'on, non, comment on dit ça, qu'on fait gaffe, quoi, enfin, qu'on supprime, qu'on met bien dans le cloud, effectivement, qu'on enlève de l'iPhone, etc., etc. Ça fonctionne très bien. Moi, qu'est-ce que je faisais avant, hein, j'allais dans musique et j'effaçais tout, parce que bon, moi, je suis assez fan de plutôt des systèmes à la Google Music, c'est-à-dire qu'on a sa propre musique et on l'upload en ligne pour son accès personnel.
Bien sûr.
Ouais, Spotify, disons qu'il y a un catalogue disponible.
Oui.
Voilà. Alors moi, j'aime bien avoir mon album et après me le mettre à ma disposition. Mais peu importe. L'idée est que je peux écouter ma musique, en tout cas dans le cloud. Mais en fait, on peut aussi la télécharger localement. Parce que par exemple, aller prendre le métro avec Spotify. Aller sur l'autoroute avec Spotify. Peut-être pas de chance, mais moi, ça ne fonctionne pas. 4G ou pas 4G, hein. Ça ne fonctionne pas.
Non mais attends, j'écoute hein, depuis tout à l'heure. Enfin, je te laisse terminer à la limite. Vas-y,
réagis.
Mais moi, ça me paraît encore, enfin, absurde. C'est-à-dire, franchement, je fonctionne pas pareil, j'en sais rien. Mais là, tu disais effectivement les applications, les fichiers, les avoir, de pas les avoir. Enfin, je me pose la question pour rien. On en reviendra encore après avec l'histoire des écosystèmes, mais moi, pour te dire, là, depuis tout à l'heure, j'ai eu le temps d'accéder à mon super menu de stockage pour savoir un petit peu ce que j'avais sur mon téléphone. Pour vous dire, j'ai 3 gigas d'applications. Bon, j'ai un paquet d'applis, mais au final, ça prend que 3 gigas. En musique, j'ai 260 kilo-octets de musique. Donc, c'est pour vous dire à quel point Spotify marche bien. Bon, en cache, par contre, j'ai quand même 2 gigas. Donc, j'imagine que le cache est utilisé en partie par Spotify. Mmh. J'ai dû le limiter à 10% ou je sais pas combien. En gros, concrètement, j'ai beaucoup de choses, mais au final, il me reste tout de même 9 gigas de libre encore sur mon téléphone, alors que je fais tout. Et moi, j'utilise notamment Google Drive, qui est très très bien intégré avec Android et même avec d'autres systèmes. Je ne me pose aucune, parce que évidemment le cloud n'est pas téléchargé tout sur le téléphone. L'intérêt, c'est de télécharger à la demande ce qu'on a besoin.
Et alors c'est sur, je te coupe, excuse-moi, mais justement sur ça, c'est là où on voit que l'expérience locale des gens, enfin, peut totalement faire changer la donne. C'est-à-dire que je sais pas comment tu te déroules, je sais pas dans quel réseau tu es, avec quel opérateur, mais moi, c'est juste pas possible. Enfin, je veux dire, bon, c'est pas parce qu'on est dans une grande fac parisienne qu'on a le Wi-Fi, hein, il faut bien le dire quand même. Donc, moi, typiquement, quand j'arrive en cours, j'ai pas de Wi-Fi. essentiellement. Il faut bien le voir quand même, non, ça.
D'accord, mais avant, enfin, je veux dire, il y a bien un moment où tu as l'internet. C'est, après, c'est qu'une question. Moi, typiquement, par exemple, j'ai passé un week-end entier il y a quelques temps, en plein paumé au milieu des Vosges, où il y avait mais pas un pet de réseau. Quand je dis pas un pet, c'était rien du tout. Bon, bah, j'avais pris le temps juste d'appuyer sur un bouton, sur un switch, sur Spotify, pour enregistrer les musiques dont j'avais besoin en me préparant un petit medley. Je me suis dit, allez, on va se préparer quelques musiques. J'ai appuyé sur un bouton, je les avais en local. Et puis après, une fois le week-end passé, j'ai réappuyé sur ce même bouton et toutes les musiques sont parties. J'en ai pas téléchargé du coup 25 gigas parce que je savais que j'allais pas écouter les 25 gigas de musique. Mmh. Donc je me suis téléchargé un petit giga de MP3 en qualité moyenne. Comme ça, j'étais tranquille, j'optimise un petit peu. Et ça m'a demandé rien techniquement à faire. Au niveau des données, il y a bien un moment où tu es chez toi, où tu es ailleurs, où tu as quand même une connexion Internet. Et n'oublions pas aussi qu'il y a des systèmes qui permettent de travailler en local. Typiquement, on peut bosser sur les Google Docs par exemple en local, et ça n'enregistre, enfin ça garde en local, et puis à partir du moment où il récupère une connexion à un moment ou à un autre, ça fait la synchronisation. Donc honnêtement,
oui, Dropbox fait ça aussi très bien. Ouais, il est capable effectivement de ne pas passer par Internet. Ben moi, c'est juste qu'en pratique, c'est ça, enfin comment dire, voilà, comme je l'ai dit au début, je suis un grand partisan du cloud, mais pour moi je considère que je suis un partisan du cloud. C'est-à-dire pas du, il faut cocher un truc de temps en temps parce que je devais devoir prévoir que j'ai pas de réseau, quoi. Ça fonctionne pas. Je veux dire, le problème c'est que si moi je fais ça, honnêtement, je sais pas quelle musique je vais avoir, tu vois. Je sais pas, je vais avoir un giga, deux gigas.
Attends. Concrètement, des documents de travail, c'est bien sur ton ordinateur que tu vas les avoir la plupart du temps. Quand tu me parles de cours,
oui, ils sont sur un iPad qui fait 32 gigas, sinon c'est pas jouable.
À partir du moment où tu utilises l'iPad pour noter tes cours, je peux plus rien faire pour toi, je suis désolé. Non, mais, soyons honnêtes, je veux dire, à un moment, moi, si je veux bosser, si j'ai des documents de travail, moi, je les ai tous sur mon ordinateur qui sont synchronisés, enfin, qui sont sur mon ordinateur portable. C'est là-dessus que je vais travailler, c'est mon outil de travail. Donc oui, je sais que j'ai de la place pour le faire, je sais que je vais être tranquille. Et si je suis en déplacement et que j'ai que mon téléphone, je vais quand même pouvoir toujours accéder à mes fichiers si nécessaire. Bien sûr, je vais pas accéder à tous mes fichiers, je vais pas pouvoir télécharger mes 250 gigas que j'ai de données sur le cloud, mais au moins j'y aurais accès. Je trouve que dans les faits, enfin moi, je veux dire, j'ai pas de problème, j'ai pas l'impression de me sentir coincé à chaque fois à me dire il faut vraiment que je réfléchisse. Bon, après, je vous l'accorde, je travaille à domicile, ça aide beaucoup les choses.
Non, mais voilà, moi c'est vraiment l'expérience quand même déplorable qu'on a aujourd'hui du Wi-Fi. Hein. Bon,
c'est ça, Aurélien, en fait. Enfin, pour rebondir, tu disais tout à l'heure que tu avais combien de points en document PDF sur ton.
Bah alors, ouais. Donc du coup, j'ai aussi ouvert mon stockage à côté. Sur l'iPhone, hein. Photo et caméra 5,1 giga. Et encore. Ça, c'est pré iCloud, librairie iCloud dans les nuages, la librairie photo iCloud. Ça, c'est un truc qui va être introduit en 2015 où on pourra mettre toute sa librairie, toute sa bibliothèque en ligne. Mais donc là, c'est juste des trucs en local que j'ai filmé récemment. Et après, qu'est-ce qu'on voit? Bah, par exemple, voilà, je suis aussi des cours sur iTunes U. Bah oui, si je veux pouvoir en regarder un dans le bus de temps en temps et que je veux que ce soit un minimum en HD, sinon c'est pas lisible. Bah voilà, 865 mégas. Après, podcast, bah il y a Tech Café dedans, il y a un peu de musique aussi, 756 mégas, etc., etc. Et ça va, par exemple, de l'intérêt d'acheter un GPS TomTom au tout début où c'est sorti, bon, 573 mégas. Effectivement, c'est pas beaucoup, mais avec 16 gigas,
Je crois qu'en fait, messieurs, vous êtes en train de raisonnablement finalement dire la même chose. C'est-à-dire, pas tout à fait en fait, mais est-ce que il y a des usages et des personnes qui ont besoin de plus grosses capacités de stockage? Ben, oui. La réponse est évidemment oui. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se retrouver bloquées par des manques de connectivité, etc. Maintenant, la réponse quand même qu'il faut entendre, c'est est-ce qu'on peut raisonnablement utiliser un appareil à 16 gigas, et est-ce que c'est rédhibitoire de commercialiser des appareils à 16 gigas? Finalement, non.
Et je mais c'est pas ça. C'est pas
oui,
ça
le oui, problème. On est d'accord. Je me faisais la réflexion tout à l'heure. Je me disais, j'ai mon OnePlus One là, qui fait 64 gigas de stockage. Je regarde et en fait, j'en ai 47 gigas de libre. Donc, c'est vrai que finalement...
Juste un dernier point que je voudrais dire là-dessus pour rebondir sur exactement ce que tu viens de dire. Est-ce qu'on peut utiliser un iPhone avec 16 gigas? Oui, bien sûr. C'est pas le problème. Et y compris la personne qui va assez peu l'utiliser, mais bon, j'ai toujours un peu un problème avec les gens qui utilisent assez peu un iPhone, pas justement parce qu'on a parlé du prix avant aussi quand même, il faut bien le dire. Mais imaginons, c'est pas ça. Il y a un autre point quand même que tu as cité au début, c'est que sur la majeure partie des iPhones, Non, mais pas les iPhones concurrents, des téléphones concurrents. iPhone n'est pas encore synonyme de téléphone. Sur la majeure partie des téléphones concurrents, on a le filet de secours de dire, ah bah tiens, si un jour je sais que je vais vraiment avoir besoin de stockage, je mets ma petite carte mémoire dedans. Ouais. C'est pas le cas de l'iPhone. Donc quelqu'un qui 100% du temps est en dessous des 16 gigas largement, mais qui, pour une raison ou une autre, ça fait 3 ans qu'il n'a pas parti en vacances, il se prend 2 semaines de vacances et il passe son temps à filmer ses gamins en 250 images secondes dans la piscine. Et ben là, il va se dire, ah ouais, c'est quand même ballot, quoi. Les 16 gigas.
Je vais du coup reformuler encore ce que je disais. Un smartphone à 16 gigas, oui. Un iPhone à 16 gigas, bof, quoi. C'est ça, en fait.
Bon, et puis il y a le temps, quoi. Il y a le fait que c'est toujours là depuis le début, quoi. Enfin, c'est juste tout augmente, tout est plus super tip top, méga giga trop bien, et puis on se tape toujours 16 gigas en entrée de gamme, quoi. Enfin bon.
Ouais, bah, regarde, les MacBook Air sont sortis au début, ils avaient 64 gigas de stockage, certains modèles. Ça a pas gêné grand monde.
Et c'est pas exactement le même problématique pour moi.
Je pense que on s'en approche aujourd'hui avec ce qu'on peut faire avec un smartphone. Je pense qu'on approche. Après, je suis d'accord. Mais pour moi, pour en revenir à ce que disait tout début, pour moi, ce n'est vraiment pas l'argument le plus rédhibitoire, enfin le plus honteux. Enfin, je sais pas s'il y en a un d'ailleurs, mais le plus honteux sur l'iPhone qu'il est 16 gigas. Vraiment, moi, ça m'a pas choqué du tout. Pour moi, c'est une course. Au stockage. C'est pour moi c'est 20, on l'a vu avec les SSD en partie, puisqu'on est remonté tous à des stockages tout pourris à cause du SSD, faut le dire quand même, et ça a pas perturbé non plus énormément de monde, et d'un coup on est passé de 1 tera à 2 tera à 256 gigas, et bon, on a fait avec. Sur les téléphones, je pense qu'on est arrivé au bout.
Comme
sur l'iPod, on est vite arrivé au bout d'un moment, ils avaient fait je sais plus combien les derniers iPods, ils devaient être à 128 gigas. Je pense.
C'était même plus, hein, je crois, le dernier, le classique, feu le classique. Oui. Je sais plus, hein, jusqu'à combien il montait, enfin bon, disons la centaine, hein, à la physicienne.
Voilà, mais à un moment, de toute façon, on s'est arrêté, ils l'ont atteint il y avait 4 ans, et puis on a dit, bon, bah, de toute façon, bon, après, le modèle était aussi,
Pas exactement la même chose, hein, une bibliothèque, moi, ma musique, l'ensemble de toute ma musique, de tout l'univers que j'ai, ça fait 30 gigas. Voilà.
Oui, d'accord. Bon. Mais tu le disais très bien, avec Google Music.
Non, mais tu parlais de l'iPod, c'est pas le même problème. Tu vois que l'iPod s'arrête forcément. Tu vas pas mettre le dernier.
Mais pour moi, voilà, l'espèce de stockage, c'est pas, de façon générale, c'est pas, voilà.
Bon,
pas
en facile. Tout cas, je pense que ça a permis peut-être à des gens qui connaissent peut-être moins bien les nuances de stockage, etc., oui. de se faire un avis.
Pour moi, il faut en tenir compte, en tout cas. Voilà, c'est un élément important qui est souvent un peu passé sous silence.
Oui, et il faut pas que le prix conditionne tout. Il faut pas se dire j'ai les moyens pour un 16 gigas sans se poser la question des usages, peut-être que ça vaut le coup de rallonger un petit peu pour avoir un peu plus. On va essayer d'accélérer un tout petit peu en passant à d'autres sujets, parce que sinon on va avoir un épisode soit interminable, soit on dira pas nos petits épilogues à la fin, ce serait dommage. Juste un petit mot sur l'écosystème, on en a déjà un petit peu parlé un peu au fil de nos conversations. L'écosystème Apple versus l'écosystème, si j'ose dire, Android. Je veux pas qu'on refasse une guéguerre bête et brutal, parce que évidemment j'entends les utilisateurs de Windows Phone s'exclamer, ou peut-être les gens se dire oh là là, ce débat on l'a entendu 100 fois. Malgré tout, quelques petits mots quand même. J'ai envie de te laisser la parole, Aurélien, en premier cette fois-ci, par rapport à l'écosystème.
Oui, moi sur l'écosystème et en fait sur le choix des produits, il y a plusieurs points qu'il faut à mon avis prendre en compte. Bon, déjà moi personnellement, j'applique la règle du un bon système et un système qui se tient un minimum dans le temps. C'est aussi pour ces raisons-là qu'il faut des fois choisir une application, choisir une marque. Alors marque au sens d'un côté Apple ou des produits plus avec les systèmes Google. Cela étant dit, bon, on peut rentrer dans le détail, mais quand même, je tiens à le dire dès le début parce que c'est pour moi la conclusion du truc, c'est que c'est très bien qu'on ait tous ces systèmes-là, et il y en a pour tous les goûts. Et tout comme de dire que l'iPhone est le meilleur produit du monde, ça n'a pas de sens. À mon avis, il n'y a pas de sens de dire il existe un meilleur écosystème. Il existe un meilleur écosystème pour une personne A, qui bien sûr n'est pas le même que pour une autre personne.
Ah, je rejoins totalement, oui.
Voilà, non mais je tenais quand même à le dire avant, parce que c'est vrai qu'on des fois on se tape sur la tronche et puis on oublie que chacun il est content avec son système, ça fonctionne, quoi. Après, du coup, j'ai déjà dit, moi je suis pas un spécialiste du tout des autres systèmes pour les raisons d'avant. Je veux juste donner 2-3 éléments qui me semblent être un peu peut-être faire ressortir le Apple par rapport aux autres. Ça va être cliché de dire ça, mais c'est quand même essentiellement la simplicité. Alors, c'est de moins en moins vrai et encore heureux. Il y a une quantité de personnes de plus en plus novices qui peuvent utiliser à peu près n'importe quel smartphone. Les smartphones sont vraiment smart, quoi. C'est ça. Hein. Il n'y a pas que l'iPhone qui est smart. Faut pas tomber là. Mais deux, trois exemples de ce que j'appellerais la simplicité quand même. Apple, c'est typiquement, je sais pas si vous avez vu ça, mais donc, par exemple, dans iOS 8, et donc, c'était mis un peu en avant avec les derniers iPhones, vous avez dans l'appareil photo ce fameux mode timelapse. Donc, timelapse, c'est le fait de prendre, alors, d'un côté, on prend des vidéos on va prendre 10 secondes de vidéo et on va la ralentir au maximum pour avoir des super effets. Le timelapse, c'est l'inverse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est je fais tourner ma caméra pendant 5 heures et à la fin, j'ai une toute petite vidéo qui va durer quelques secondes où je vois les nuages qui passent en accéléré et voilà, ce genre de choses. La façon dont, pour moi, la façon dont le mode timelapse fonctionne dans l'appareil photo, c'est le symbole aujourd'hui de ce que veut faire Apple et de ce pourquoi ça peut marcher pour des gens. C'est-à-dire, il n'y a aucun réglage, il n'y a rien, ça fonctionne comme on a envie que ça fonctionne, c'est-à-dire on le lance, il y a la bonne quantité de photos qui est prise, il adapte automatiquement. Il y a un travail phénoménal qui est fait en arrière-plan par l'appareil photo, l'appareil photo ne fait que prendre des photos, mais par le système de choix du combien de photos vont être prises. Et au final, l'utilisateur, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a le clip qu'il avait envie d'avoir, en fait, avant de lancer le truc. D'un autre côté, un type qui veut faire du timelapse va dire mais ça ne me va pas du tout, moi je veux avoir réglé super précisément le débit de photos, combien de photos j'ai entre chaque photo, etc., etc. Mais pour moi, voilà, c'est ça, c'est ce mode là timelapse, celui qui est intégré avec l'iPhone et iOS 8, c'est pour moi le symbole un peu de ce qui se fait et de ce pourquoi un iPhone fonctionne plutôt pas mal quand on le met dans les mains de quelqu'un qui n'y connaît rien.
Alors, je, avant de laisser la parole à Will, qui a forcément des choses à répondre à ça, mais il me semble que là, on confond deux choses, Aurélien. Tu nous parles de fonction d'appareil, de fonction de service. Là où je pense qu'il est important, et ce par quoi tu as commencé, c'est l'écosystème. Moi, je me fais juste le petit témoignage. J'ai une amie qui a plus de 60 ans maintenant, qui avait son Mac, qui était sous macOS 10.6. Je l'ai dépanné hier soir avec TeamViewer, mais au secours, pour le mettre à jour, le Mac, il fallait passer par le Mac App Store. Je vous jure, on a fait au moins, on a saisi 10 fois des mots de passe, des questions à plus en finir, du père ou de la merde, je sais pas quoi. Il y a un article que j'ai vu passer qui relayait très bien ça. Au secours, quoi. Enfin, c'est pas simple du tout.
Non, alors ça, c'est pas, si je peux me permettre quand même, c'est pas tout à fait vrai. La sécurité en ligne et tout ce qui est mot de passe et compagnie, c'est quelque chose que j'essaye de connaître pas mal parce que je trouve relativement intéressant et très méconnu. C'est ce que j'ai mis dans mes coups de cœur d'ailleurs à la fin si on a le temps, mais c'est aussi parce que c'était 10.6 et que tout le monde allait, enfin, je veux dire, le fait d'avoir les questions de sécurité et autres dont personne ne se souvient et tout, tout le monde a fait ça, hein. Tous les services de mot de passe en ligne avec de la sécurité ont fait ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple.
À la limite, c'était pas tant les questions de sécurité, si tu veux, c'était l'accumulation de 10 allers-retours qu'on a dû faire, mais je vous jure, ça me rendait fou. Pourtant, j'ai quelques années d'informatique.
Oui, non, mais d'accord, mais 10.6, quoi, hein, ça fait 4 mises à jour de effectivement, hein, d'aller de 10.6 à 10.10.
Mais
ça demande un peu de travail.
C'était plus à l'identifiant iCloud, si tu veux.
Non, l'identifiant, non, ça, voilà. Il y a un truc qu'il faut dire, qui est très vrai, c'est que j'aimerais bien.
Tu reconnais que l'iCloud, c'est l'identifiant, c'est l'enfer.
Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je voulais dire. Je reconnais que, je pense qu'aujourd'hui, arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment aujourd'hui égale post iOS 8, septembre 2014.
Ah oui, c'est vraiment aujourd'hui.
Aussi même janvier. Oui. Pour avoir suivi toute la transition qui s'est faite du « il n'y avait pas de cloud » à « aujourd'hui, il y a du cloud », ça a été un bordel pendant très longtemps parce que, effectivement, moi, je me souviens de mes questions de sécurité parce que je sais ce que c'est, je comprends pourquoi ça fonctionne, je sais ce que c'est qu'un identifiant Apple, etc., etc. Et effectivement, pour quelqu'un qui n'y connaît rien et qui a mis un mot de passe une fois, le mot de passe étant Aurélien 240591, effectivement, c'est d'une complexité. C'est ça qu'il faut remettre dans le contexte aussi. Hein. La complexité des choses, quand on est des geeks un peu comme nous trois, on a vite tendance à trouver simple des choses qu'on fait depuis des années.
C'est
vrai. Et donc sur ça, je te rejoins tout à fait. Et je serais bien content que certaines personnes qui aujourd'hui sont sous Mac puisse en fait arriver qu'aujourd'hui. Il faudrait le petit flashouilleur là qu'il y a dans Men in Black. On efface tout. Et... Non, mais c'est vraiment ça. Hein. On appuie sur reset et on commence aujourd'hui. Aujourd'hui, le système est mature. C'est un peu comme le Surface. Hein. Je pense que si on arrive aujourd'hui, on est content parce que c'est clair. Alors, tu parlais d'écosystème. Je vais laisser la parole, mais
oui.
J'ai
des... on laisse la parole à Will.
Juste pas. Mon exemple n'avait pas l'air de te convaincre en termes d'écosystème. D'un point de vue de l'écosystème, par exemple, Apple, il y a un truc qui a été lancé ben là, avec iOS 8 qui marche du tonnerre et qui est excellent. C'est le partage familial. On a d'un côté des téléphones qui effectivement sont dans le très très haut du panier d'un point de vue prix. À côté de ça. Vous achetez votre film sur l'iTunes Store, l'iTunes Store, vous achetez votre application à 99 centimes et toute la famille y accède en téléchargement légal. Du coup, il n'y a plus besoin de s'échanger des identifiants, de s'échanger des mots de passe. Ça fonctionne. Moi, je l'ai fait avec les gens de ma famille. Ça fonctionne du tonnerre. Et je pense que ce niveau-là de simplicité qu'on atteint aujourd'hui est quand même un argument toujours en faveur d'Apple.
Will, qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
Mais moi, alors moi, je note avec précaution tout ce qu'il dit. J'ai un petit papier à côté de moi. J'ai écrit très très vite là. J'ai plus tout à l'heure. Je suis en mode dactylo. Hop. Non, alors on va prendre point par point. Si vous, non, je vais pas prendre point par point parce que ça va être un peu long. Mais
moi, président.
Fan de. Non, mais alors je tiens aussi parce que j'ai pas précisé depuis le début. Hein, mais j'ai une installation. Moi, j'ai un Mac Mini qui est surboosté d'ailleurs. Mais ça fait depuis 10 ans que, enfin même plus de 10 ans que j'utilise des Macs et que je suis extrêmement satisfait de macOS X. Plus maintenant qu'il y a quelques années, mais je suis très satisfait de macOS X et j'utilise beaucoup de produits Apple. Mais pour autant, il est vrai que sur les téléphones, j'ai un peu plus de mal actuellement. Donc l'histoire du timelapse. Alors très vite, hein, l'histoire de la fonctionnalité, ça c'est typiquement. Alors c'est là où je regrette malheureusement que les concurrents ne sachent pas vendre leurs produits, parce que ça reste quand même un problème terrible. C'est-à-dire, c'est vraiment, ils arrivent à foirer.
On est bien d'accord.
Tout ce qu'ils peuvent bien faire, ils arrivent toujours à ne pas réussir à te le vendre correctement, donc c'est quand même malheureux, même si c'est très bien fait. Et c'est justement ce que je voulais dire, c'est que tu nous dis la simplicité d'Apple, machin. Ce qui était autrefois vrai, ne l'est plus nécessairement aujourd'hui, ou en tout cas, ce ne sont plus les seuls à être simples d'utilisation. Et de loin. Parce que l'iPhone 1, je suis d'accord, mais alors, mais mille fois, les deux, trois premiers iPhones, je suis mille fois d'accord, ils avaient quand même fait une interface qui était incroyable.
Oui, ça.
Même macOS 10, pardon, même à l'époque où on avait encore du Windows XP ou même du Windows Vista, enfin, surtout du Windows Vista, à côté, il y avait pas photo. Aujourd'hui, faut quand même, à un moment, c'est ce que je regrette, c'est que souvent dans l'informatique, alors ça va très très vite, mais alors les gens, ils gardent assez longtemps en tête des choses qui ont déjà beaucoup évolué, comme un Android, l'écran il rame, ça j'entends régulièrement, l'interface Android elle est lente. Bon, c'était le cas il y a peut-être encore 3 ans, aujourd'hui c'est plus le cas, mais bon, là, il faut le temps avec, c'est comme pour Microsoft avec Windows Vista c'est de la merde, mais bon, même quand il y avait Windows 7, il y en avait encore qui croyaient que Windows c'était extrêmement lent. Donc bon, les préjugés ont vraiment la vie dure dans l'informatique, c'est assez compliqué. Mais donc la simplicité d'Apple, aujourd'hui, je suis désolé, mais ce ne sont plus les seuls à être simples. Et au contraire même, je trouve que plus ça va, plus Apple, de temps en temps, c'est pas tip top. Parce que moi personnellement, alors en plus je suis graphiste, hein, mais je suis pas un ultra fan de l'interface d'iOS 7. Et je trouve que pour quelqu'un qui n'a pas eu d'iPhone avant entre les mains et qui arriverait sur cette interface, je la trouve moins claire tout de même. Qu'à l'époque qui était peut-être plus moche, hein, ça je dis pas le contraire, mais que l'interface précédente qui était vraiment, alors c'est vrai qu'elle était là pour expliquer à tout le monde, mais aujourd'hui du coup si on arrive sur un nouvel iPhone, je suis pas sûr que l'interface elle soit beaucoup plus claire ou beaucoup plus complexe qu'un Android sur une dernière version d'Android KitKat qui globalement ils ont, je parle pas des surcouches, ça c'est encore un autre débat, mais qui globalement sont tout aussi simples d'accès puisque ça fonctionne sur exactement les mêmes fonctionnements. On a des grosses icônes, on swipe dans tous les sens et puis maintenant tout se ressemble de toute façon, ils font tous la même chose. Mais bon, simplicité d'Apple, je suis plus d'accord personnellement, ou en tout cas ça l'est encore, mais tout autant chez les autres. Et du coup voilà, pour le timelapse tu disais avant, c'est une fonctionnalité supplémentaire, mais voilà, c'est encore une fonctionnalité qui arrive à survendre Apple, qui est certainement une très, je dis pas que c'est une mauvaise fonctionnalité, loin de là, mais je suis je mets pas ma main à couper, mais ça me choquerait pas que ce soit une fonctionnalité qui existait déjà peut-être sur un des des téléphones de Galaxy.
C'est très probable.
De Samsung, c'est très probable.
Je dis pas que c'est pas possible.
Mais au niveau de l'utilisation, je pense que c'est et l'utilisation, je pense qu'elle était tout aussi simple. Alors j'aime beaucoup ton discours où tu dis il faut se rendre compte de l'incroyable technicité de calcul, de fonctionnement de l'application derrière qui va savoir le nombre de photos. Ça c'est le style de speech à l'Apple qui me fatigue. Parce que Apple, ils arrivent à te faire croire des choses formidables sur des trucs techniques que les autres vont faire et qui vont même pas s'en vanter ou ils vont pas être capables de le vendre, mais qui vont faire exactement la même chose avec exactement la même facilité d'utilisation. Donc, c'est des bonnes innovations, c'est très chouette, mais pour moi, c'est pas, faut raison garder un petit peu sur concrètement ce que ça fait. Je veux dire, quand ils ont sorti les modes panorama sur l'iPhone, ça existait déjà ailleurs et ça fonctionnait exactement pareil. Moi, d'ailleurs, je pense que l'appareil photo Google est disponible maintenant aussi sur les autres sur iPhone, ouais. Si je me trompe pas. Il y a aussi le mode des photos 360 degrés, donc des photos un peu
photosphère.
Les fameuses photosphères. Quiconque a déjà essayé les photosphères, on peut pas faire plus simple d'utilisation que les photosphères. Alors évidemment, je peux le vendre aussi en disant on se rend pas compte de l'incroyable capacité derrière technique de faire en sorte que les photos qu'on va prendre, les couleurs du ciel, regardez, elles vont s'accorder pour que ça fasse des couleurs parfaites. Non, ça le fait juste. Ouais. Ils vont pas le survendre et ça le fait. Mais c'est ça qui est un peu, c'est ça qui parfois m'agace. C'est on a cette espèce de le fameux champ de distorsion d'Apple qui arrive à te transformer tout en fonctionnalité incroyable. Mais voilà, donc en gros, l'écosystème Apple, si on en revient à cette histoire-là, aux écosystèmes, je pense que maintenant ils se valent et la concurrence a largement rattrapé, voire même dépassé Apple sur une gestion simple d'écosystèmes et d'outils qui fonctionnent correctement entre eux. Voilà.
Aurélien, une minute pour réagir rapidement.
Oui, je voulais juste sur ça, j'avais fait un tout petit peu exprès en fait de prendre le mode timelapse parce que justement c'est pas un truc du tout, enfin. C'est pas un truc qui a été vendu par Apple. La façon dont ça fonctionne derrière, c'est pas un truc que j'ai lu sur le site. C'est moi qui me suis mis à ma fenêtre, qui ai fait une vidéo de 5 minutes. J'ai regardé combien il avait pris de photos. J'ai fait une vidéo de 10 minutes, etc. Parce que c'est du, comment on dit, rétro engineering. Like, donc on essaie de voir comment ça fonctionne en arrière-plan. C'est pas un truc qui a été vendu aussi de façon très flamboyante par Apple. Hein. À côté de ça, donc. C'est quand même vrai qu'ils sont très très doués pour vendre des trucs qui existent déjà ailleurs. Cela dit, les autres le font aussi quand même pas mal et tout ce qui est toutes les moqueries qu'on a souvent. Mais moi, je suis le premier à le faire. Hein, je l'ai fait sur ma chaîne avec un petit montage de la keynote où on s'amuse beaucoup avec les beautiful, amazing, etc. Tout le monde fait ça. Hein. Enfin, moi, pareil. Hein, quand j'ai fait mes devoirs ce week-end, là, je suis allé sur le site de Samsung. Le premier truc que vous voyez, il y a écrit 5 fois. Superbe écran, magnifique, voilà, bon.
Innovate, le Samsung.
Mais c'est ça le truc, c'est-à-dire que, après, le fait qu'ils soient capables de survendre les trucs et que les autres ne soient pas capables de le faire, je trouve ça relativement dommage parce que, effectivement, on avait un peu évoqué, par exemple, le paiement sans contact, mais il y avait un autre truc qui m'était venu à l'idée, c'était tout simplement le fameux Touch ID qu'il y a sur l'iPhone, donc c'est le pouce, là, pour déverrouiller l'iPhone. Il faut bien voir quand même que ça existe déjà, y compris sur des ordinateurs d'ailleurs, souvent sur des portables, mais ça existe déjà depuis un bon paquet d'années. Et pourtant, il se trouve que personne ne l'utilise. J'essaye pas de faire du troll ou quoi que ce soit en disant ça, c'est la réalité. Il y a assez peu de monde quand même qui utilise les modes de biométrie sur leur téléphone. Quand Apple le fait, ils sont passés, et donc c'est les chiffres que eux ont donnés. Alors après, moi aussi, on peut tout remettre en question, mais ils ont dit, donc dans la keynote, voilà, on est passé de 50% des gens qui mettent un mot de passe à 80%.
Ouais, ça, de toute façon, Touch ID, ça fait partie des éléments sur lesquels, moi perso, hein, je trouve en tout cas qu'il n'y a pas débat. Ils ont très bien intégré le truc.
Ah, bien sûr,
Samsung a essayé de le faire, évidemment. Ils l'ont mal fait.
Mais par contre, je rejoins tout à fait ce que tu disais sur le fait que ça n'aide personne, en tout cas, ça n'aide pas le client.
Ouais,
que Apple soit le seul les plus efficaces. À faire voilà cette espèce de machine médiatique qui fait que tout le monde va parler de Touch ID et que tout le monde va parler des nouveautés qui ne sont pour la plupart pas. C'est ce que j'ai dit dans les commentaires. La liste des trucs qu'Apple n'a pas inventé, elle est longue comme le bras. Hein.
Mais très 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 vite et j'arrête ici. Promis Guillaume, hein, je fais attention. Non mais c'est pas un problème d'inventer. C'est souvent dit non mais ils l'ont pas inventé, mais en tout cas ils l'ont fait quand même mieux. Alors pour Touch ID je dis pas, pour plein de choses je ne dis pas effectivement, mais pour d'autres et pour beaucoup d'autres. c'est pas forcément mieux fait, c'est aussi bien fait ailleurs et déjà, voire c'est parfois mieux fait ailleurs. C'est ça juste qui est embêtant, parce que souvent moi, on me dit oui mais de toute façon on prend pour acquis que de toute façon, même s'ils l'ont pas inventé, ils l'ont fait eux, ils ont réussi quand même à le faire mieux hein, que les autres. Ah quand même, hein. Ils vont de rajouter le mode multitâche où tu peux accéder au truc plus rapidement avec des images. Ils vont ah mais quand même ils l'ont quand même
c'est
fait
aussi,
parce qu'on
aussi
peut swiper.
Un peu caricatural,
ah oui,
bon,
on peut le faire ailleurs aussi, mais tu vois
c'est aussi un peu caricatural dans le sens hein, les franchement si tu prends un type
c'est
un peu honnête.
Hein, tu sais.
Oui non mais c'est de bonne guerre. Mais par exemple, moi si tu me poses la question des notifications sur iOS, enfin je veux dire pendant un an, je me suis quand même posé la question de ce que c'était ces trois panneaux de notification hein. Donc et pourtant c'est de la copie qui a mis un temps fou à être arrivée sur Apple, ça fait des années que ça existe chez les autres et pourtant ils se sont ratés sur toute la ligne quand même. Là on commence à peut avoir un truc pseudo bancal, donc c'est pas quand même aussi bon, c'est pas aussi simple que ça quoi. Il existe vraiment des choses sur lesquelles ils sont vraiment en pratique, disons les gens l'utilisent. Après faut voir ça aussi hein. Quand on pense qu'il suffit avec les gens n'achètent pas pour que ça se vende plus, mais c'est un peu ça des fois le fait qu'un produit se vende n'est pas toujours un très très bonne mesure de la qualité du produit, ça se saurait. Mais sur des fonctionnalités qui sont dans un téléphone, parfois c'est quand même un assez bon signe. C'est-à-dire, voilà, combien de gens utilisent telle fonctionnalité, combien de gens, typiquement pour le paiement sans contact. Bon, on verra si on se refait inviter dans un an. Voilà.
Bon, je pense vraiment. Alors, je suis persuadé que ce débat était rempli d'imperfections et sans doute que beaucoup d'auditeurs auraient aimé prendre la parole. Faites-le de toute façon dans les commentaires. Moi, je suis ravi parce que c'est une opportunité d'échanger avec vous sur le sujet de vive voix là où vous aviez échangé par écrit. Je trouve que c'est resté très incisif mais très cordial entre vous, donc à la hauteur d'un débat de présidentiel. Donc, j'en suis ravi. Je voudrais quand même qu'on puisse relayer. Alors, il y a plein de choses qu'on n'a pas relayées dans le débat. On aurait pu parler de la finesse des smartphones, ouais, comme tu le suggérais, Aurélien, versus l'autonomie, où sont vraiment les vraies marges de progression et d'innovation désormais. Bon, on en reparlera peut-être une autre fois. Je vous propose malgré tout, pour conclure cet épisode, on fasse un petit tour très rapide sur les coups de cœur, coups de gueule. À commencer peut-être par toi, Aurélien. Est-ce que tu peux nous faire part de coups de cœur et de coups de gueule éventuellement?
Alors ouais, je voulais finalement un coup de gueule qui pour moi est plus important que le coup de cœur, puisque j'ai du coup la chance de pouvoir parler là, donc je vais le faire. À côté d'essayer de devenir un bon physicien et d'être un geek un peu sur les bords, je suis aussi un grand fan de séries télé. Et à côté de ça, donc j'ai commencé ça il y a quand même un bon paquet d'années. Et puis bon bah quand on est gamin et qu'on n'a pas de sous, bah voilà, hein, on fait comme tout le monde, on va sur les torrents, on télécharge. Et donc bon, il y a un bon paquet de saisons quand même que j'ai piraté, faut bien le dire. Il y a pas de secret là-dessus. Et au bout d'un moment, bon, j'aime bien les créateurs quand même et j'ai bien envie de les payer ces gens-là. Et donc quand on commence à avoir des sous, on se dit tiens, et si on achetait nos séries télé, ce serait quand même pas mal. Et en fait, le constat est que, eh bien, moi, ça fait déjà plusieurs années que j'essaie de faire ça. Le constat est que toujours en 2014, j'ai un peu du mal à comprendre. Alors, bon, s'il y a des auditeurs qui peuvent expliquer ça en termes simples pour ma petite cervelle, ça me va très bien. Mais très naïvement, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi on a toujours autant de frontières dans le domaine de l'audiovisuel. Pourquoi il faut encore attendre une année avant qu'une série arrive en France légalement sur l'iTunes Store. Si on va sur l'iTunes Store aujourd'hui, on peut acheter des séries par exemple qui sont disponibles en direct aux États-Unis, mais on a un fichier qui est donc VOST, c'est-à-dire sous-titré, mais sous-titré en physique. C'est-à-dire vous irez voir si ça vous amuse, vous avez en physiquement imprimé sur la vidéo des sous-titres en français, ce qui pour moi est totalement surréaliste. J'ai un peu du mal à comprendre ça. Autre exemple, c'est par exemple voilà, le fameux cas d'école de Netflix qui ne peut même pas diffuser sa propre série télé parce que c'est vendu par Canal. Bon, moi j'ai un peu du mal à comprendre comment on en arrive là, comment l'iTunes Store, si on veut, donc si vous êtes comme moi et que vous avez envie de payer les créateurs, qu'est-ce que vous faites? Vous créez des comptes américains, vous utilisez des VPN, enfin c'est un véritable bordel. Et voilà, je trouve ça un peu dommage et je pense que les gens qui gèrent tout ça sont un petit peu à côté de la plaque. Voilà.
Je partage et je sais pas s'ils ont vraiment la marge de manœuvre pour vraiment. Bon, je sais pas.
Ouais. Non, je dis ça, je sais que c'est probablement très naïf, hein, mais c'est aussi un peu des fois le but d'un coup de gueule. Hein,
ouais, bien sûr.
De mon point de vue, enfin c'est vraiment dommage. C'est-à-dire que voilà, je veux payer parce que c'est quand même $50. Hein, je sais pas, vous prenez Modern Family saison 6, $50 sur iTunes Store OS, faut quand même se les taper les $50. Hein, mais moi personnellement, je suis tout à fait prêt à les payer. C'est pas un problème. Je veux bien payer Modern Family $50. Sauf qu'en pratique, c'est pas possible. Donc qu'est-ce que se fait? Alors j'ai une fausse identité aux États-Unis, je me crée, j'achète des cartes à tout. Enfin, c'est-à-dire que voilà, je me plonge encore plus dans un truc qui est probablement ultra illégal juste pour pouvoir payer les types. C'est quand même, enfin c'est. Waouh, c'est quand même pas mal, je trouve. Voilà, donc je voulais le dire.
Bon, il y en a plein qui remontent cet avis de toute manière. Coup de cœur.
Coup de cœur, eh ben moi, on a évoqué très rapidement tout ce qui est sécurité. Je l'ai réalisé il y a environ 2 ans. J'aurais tendance à dire que en fait, j'y connaissais rien du tout en sécurité et en mot de passe et en tout ça. Et j'ai découvert un super logiciel qui est assez connu sur Mac et qui existe aussi sur iOS et depuis récemment sur Android, qui s'appelle 1Password. Et en fait, j'aime beaucoup 1Password. Alors, je précise parce qu'en plus sur iOS et Android, il est passé en mode freemium et en fait, tout ce qui est dans la version gratuite est déjà largement suffisant pour la majeure partie des gens. Et en fait, c'est pas tellement pour l'application en elle-même, c'est pour le site internet. Alors, il faut être anglophone. J'ai comme projet de traduire leurs articles, mais c'est encore sous le coude. Mais si vous êtes anglophone et que vous avez envie d'en savoir plus sur ce que c'est qu'un mot de passe, question toute bête, voilà, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'un mot de passe est un bon mot de passe ou un mauvais mot de passe? Ben, moi, j'y connaissais rien. J'ai tout appris chez eux. Et franchement, bah, quand on voit, voilà, hein, tous les problèmes qu'il y a, il y a l'année dernière, je sais pas combien de milliers de comptes Adobe qui se font pirater, là, des comptes PlayStation, que sais-je, etc., etc. Bon, c'est régulièrement, on en entend parler. Donc voilà, la sécurité en ligne, c'est quand même pas très compliqué une fois qu'on a compris, mais il faut nous expliquer un peu avant. Et donc voilà, les créateurs de 1Password, qui sont donc une boîte qui s'appelle Agile Bits, et qui ont un site internet avec un blog, et pas mal d'articles de sécurité qui sont très, très, très intéressants.
Moi, merci, Aurélien. Je me permets de mettre un plus vert à ce que tu viens de dire, parce que 1Password, c'est une application que j'utilise, mais depuis des années, et qui est, si tu veux, la première application que j'installe quand je j'achète un nouveau Mac. C'est l'une des premières que j'achète, parce que je l'utilise tout le temps, mais H24, quoi. C'est-à-dire vraiment, c'est une application incroyable.
Application. J'ai 390 éléments dans 1Password.
Ah ouais, non, ça marche, mais tu fais de Dieu.
Vraiment, mais en plus, voilà, vraiment leur blog, ils sont ultra, en fait, ils sont, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas parce que c'est une boîte qui s'occupe de protéger vos mots de passe qu'ils vous disent rien sur le fonctionnement du logiciel, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire d'ailleurs. Et donc, eux, ils sont totalement ouverts, ils expliquent ce que c'est qu'un vrai mot de passe, ils expliquent comment créer des vrais mots de passe, pourquoi ce qu'on imagine être un mot de passe fort n'est pas un bon mot de passe, etc., etc. C'est très intéressant si on s'intéresse à ce genre de choses.
Merci Aurélien, c'est vrai que c'est passionnant au passage, je rajoute pas plus. Will, de ton côté, coup de cœur, coup de gueule, ce que
alors,
tu veux.
Un coup de cœur, une application encore pour Mac, je crois qu'elle est que pour Mac, mais j'en suis même quasi sûr, et qui s'appelle Solver, alors S-O-U-L-V-E-R, qui coûte pas très cher, hein, elle doit coûter quelques euros seulement. Alors c'est tout bête, mais j'ai cherché quand tu m'as demandé des coups de cœur et des coups de gueule, et j'ai cherché un petit peu dans mes applications, et je me suis arrêté sur celle que finalement j'ai acheté un peu par hasard et que je me rends compte que j'utilise tout le temps. Et celle-ci, c'est devenu vraiment une application que j'utilise, mais à peu près tous les jours.
10,99€ sur le Mac.
Voilà, donc ça reste raisonnable. Bon, c'est un peu cher quand même, mais j'ai dû l'acheter en promo. probablement. Ça me paraît un peu cher, mais peu importe. Ouais. Mais donc c'est une application de calcul en fait, mais qui est géniale puisque c'est une application où on écrit, où on tape du texte et on peut écrire des phrases. Alors on peut écrire par exemple, on peut écrire juste des chiffres et des signes de calcul, hein, mais si on a envie, on peut vraiment se faire des petites fiches. Moi par exemple, je vis en colocation. Donc, par exemple, typiquement pour les calculs de loyer, de qui doit payer quoi, les frais, les machins, je me suis fait une petite fiche dessus en tapant mon texte et en disant voilà, telle personne va payer tant de pourcents de telle chose, et puis il va nous afficher automatiquement les résultats dans une colonne à droite, et ça marche extrêmement bien. Et rien que pour pouvoir faire par exemple, vous pouvez écrire 100€ plus 10%, il va vous donner la réponse rien que pour ça. Quand vous n'êtes pas un matheux comme moi, bah c'est formidable.
pour ceux qui ont fait cagne et hypocagne et qui veulent faire des maths.
Je mets aussi un petit pouce vert sur ça, effectivement.
Elle est vraiment géniale. Et vous, par exemple, vous pouvez même dire, je suis juste en train de rechercher des opérateurs qui sont proposés, mais qui sont vraiment sympas. Par exemple, attendez, on peut dire, je crois, combien de pourcentage pour arriver à tel chiffre. Donc voilà, ça donne, vous écrivez en toutes lettres, en français, très important aussi, c'est tout en français. Donc vous écrivez des phrases et ça vous donne des résultats. C'est franchement génial. J'aurais rêvé avoir ça quand j'étais au collège.
Voilà.
Tu l'autorises.
Non, mais c'est dommage parce que là, vraiment, vous pouvez mettre, je pense, un exercice de maths. Il y a des chances que vous réussissiez à avoir une réponse à peu près. Donc voilà. Et puis très, très rapidement, un coup de gueule. Mais ça, c'était, j'avais rien qui en ce moment me, bon, si, peut-être le prochain Nexus de Google qui m'embête un peu, mais ça, c'est pas très important. Mais un autre coup de gueule, moi, que j'avais, c'était le, sur les réseaux sociaux, je regrette en ce moment l'explosion des hoax qui, ça me fatigue. C'est-à-dire, je passe mon temps sur Facebook à voir des proches, des gens que je pensais assez informés et en tout cas qui ne prenaient pas au pied de la lettre tout ce qu'ils pouvaient voir sur Internet, et je me rends compte que ce n'est pas le cas. Les gens de plus en plus lisent tout et n'importe quoi et le prennent, mais alors pour argent comptant, alors même qu'ils ont vu un article partagé de nulle part qui donne vers des liens qui emmènent vers rien. Enfin, c'est improbable, et on retrouve des articles complètement stupides et faux partout qui sont partagés avec joie, amour et par même des amis proches, et ça m'embête très fort, et je regrette que les gens ne soient pas capables de prendre le temps un petit peu de réfléchir à ce qu'ils lisent, de prendre le temps d'analyser les sources de ce qu'ils lisent, sans pour autant faire des enquêtes, je parle pas de passer des mois dessus, mais qui prennent un peu le temps. Et je pense que ce serait très 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 intéressant d'apprendre ça à l'école aujourd'hui, parce que je crains que plus ça va, moins ça va. et ça, j'aurais dû aussi aller à l'école pour apprendre le français, mais ça, c'est encore une autre paire de manches.
Décidément. Mais alors, je plus sois d'autant plus que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans d'autres épisodes de Nip Life ou de Tablette Café en son temps. Je suis vraiment un fervent adorateur d'un autre podcast que vous pouvez découvrir qui s'appelle Scepticisme Scientifique, qui est animé par un certain Jean-Michel Abrassard, qui va vous faire découvrir. Alors bon, si vous prenez un peu en cours de route, parfois ça peut être un peu indigeste, mais il y a des épisodes qui sont plus faciles à appréhender que d'autres, qui vous amènent à vous approprier les méthodologies de mouvements de scepticisme. Donc vraiment, comment prendre du recul par rapport aux informations qui vous sont données, que ce soit en statistique, que ce soit en affirmation politique, etc. Et c'est vraiment passionnant, je trouve, dans la démarche intellectuelle. Ça mélange un peu de philosophie et plein d'autres éléments. Merci. D'ailleurs, j'allais dire, c'est captivant.
Très bien, ça.
Et ça évitera de mettre son iPhone sous iOS 8 au micro-ondes, voilà, pour essayer de le recharger.
Exactement.
Merci, Will. Je vais juste conclure par une fonction, alors très très rapidement, j'en parle régulièrement, de Pocket, qui est cette application qui vous permet de sauvegarder des articles pour les lire plus tard. Il y en a d'autres, hein, mais celle-ci, je l'apprécie particulièrement, d'autant plus qu'il y a des nouvelles fonctions sympas qui sortent de temps en temps. Et la prochaine, que j'ai eu l'occasion de bêta-tester, qui me paraît vraiment être une fonction super intéressante et pourtant toute conne, c'est de publier sur une page sur internet la liste des articles que vous avez bookmarqués avec un tag donné. Donc si par exemple vous sauvegardez vos articles dans Pocket et que vous mettez le tag pourquoi pas, je pense à Aurélien, écriture manuscrite sur iPad, c'est un peu long pour un hashtag mais vous m'aurez suivi, vous allez pouvoir exporter et publier une liste de ces articles sur une page sur internet en un clic, et c'est une vachement bonne idée, donc bravo à eux en tout cas. Messieurs, merci vraiment beaucoup d'avoir pris le temps de débattre et de refaire ce débat écrit à l'oral. Moi, ça m'a bien intéressé. J'espère que ça aura apporté des informations et que ça permettra aux gens de se faire un petit avis sur les différents sujets qu'on aura abordés. Juste avant de savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet, je voulais citer juste les deux premiers à les commentaires d'iTunes que j'ai eu pour Tech Café.
Bravo !
Je peux pas m'empêcher. 5 étoiles de LucB51 qui dit le meilleur podcast du monde. On peut pas s'empêcher de dire que ça, c'est un bon commentaire. Et Nicolas Chatrainé qui dit le renouveau de Tablette Café est toujours aussi précis, intéressant et imagé.
J'espère qu'on a été précis encore ce soir.
Franchement, je pense que oui. Et très étoffé et très argumenté, donc je pense. Alors, je ne vais pas lire la totalité de ton commentaire, Nicolas. Pour la peine, vous pourrez aller regarder les deux notes sur iTunes et surtout déposer la vôtre. On en a besoin, vous savez.
Attends, moi, je peux lire la fin quand même de son commentaire. Tu ne peux pas la lire parce que bah, forcément, mais moi, on peut la lire. Je peux la lire, ça te dérange pas.
Allez, vas-y.
Allez. Guillaume Vendée est un super maître de cérémonie. Et les autres podcasteurs ont toujours un avis sur la high-tech, les jeux vidéo et les tendances gadgets du moment. Continuez comme ça. Tu es un super maître de cérémonie.
Ah, vas-y. J'ai bien fait de me lever ce matin. Merci beaucoup, ah, voilà. Nicolas, et merci Will de l'avoir lu.
Je t'en prie.
C'était pas organisé, en plus. Will, pour la peine, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te contacter plus personnellement et t'inciter à acheter des produits de type iPhone?
Ouais, ben, il va falloir bien du courage, déjà. Non, mais vous pouvez me retrouver sur Twitter. Alors, mon pseudo, c'est mon nom de famille, est très compliqué. Donc, vous cherchez déjà Will & Co, c'est l'émission que j'anime, que je vais recommencer à animer prochainement, parce que là, on est en stand-by, mais vous avez une bonne centaine d'épisodes à écouter déjà si vous avez envie de nous découvrir. Donc, sur willandco.fr et sur Twitter, @willandco, en toutes lettres. Et j'aurai plaisir de vous retrouver, de discuter avec vous, peut-être d'iPhone ou d'Android, qui sait.
S'il y a un podcast qui donne la banane, c'est bien Will & Co. Donc vraiment, allez,
c'est gentil. Bah, on reviendra prochainement avec des nouveaux épisodes. Pour l'instant, il y a une petite pause.
On y compte. Aurélien, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, pour ta part, pour te convaincre d'acheter un téléphone Android et d'acheter du 16 Go en iPhone?
alors je suis sur Twitter. Hein, j'ai un compte perso. Bon, je pense que tu mettras les liens, donc on va pas énoncer là ici. Mais donc voilà, j'ai mon compte Twitter. Sinon, ma chaîne YouTube. Alors c'est tout en anglais. Je m'en excuse auprès des Français. J'ai pas encore la possibilité. Je demande régulièrement à YouTube. J'ai pas encore la possibilité de faire la voix et en français et en anglais. Donc il y a des sous-titres français qui arrivent, qui sont écrits par moi, donc c'est pas du Google Traduction qui est pourtant relativement bon, mais c'est voilà. Donc au bout d'un moment, les vidéos sont sous-titrées français, mais en attendant, si vous parlez anglais, c'est des petites vidéos en anglais. Et puis sinon, sur un endroit que j'apprécie particulièrement sur internet, qui est le site consomac.fr, qui a un super super forum. Donc voilà, c'est le genre de forum où jamais on, si vous posez une question pour la millième fois, on vous dira jamais il fallait aller sur Google ou il fallait chercher avec la recherche. On vous répondra au cas par cas en général. Les mecs savent de quoi ils parlent. Donc voilà, c'est un forum qui me tient bien à cœur. Donc consomac.fr et Twitter, voilà.
Je suis déçu, je pensais que le petit endroit que tu appréciais beaucoup, c'était Google+. Mais...
alors Google+, j'aimerais bien, d'un point de vue, étant YouTuber, j'aimerais bien que Google+ fonctionne beaucoup plus que Facebook, parce que moi, je suis jamais sur Facebook et je me force à mettre du coup mes vidéos sur Facebook, mais j'ai fait pas mal de conférences avec YouTube et ils font un petit peu la tronche quand même dès qu'il s'agit de parler de Google+, parce que oui. Il faut dire que YouTube est quand même super bien intégré à Google+. Et il y a juste personne, quoi. Donc voilà, bon. On va le dire vite fait en passant. Hein.
Ah, vous caricaturez. Alors on va pas refaire un débat sur Google+. Moi je partage pas complètement votre.
Non, mais Google+. J'aime beaucoup Google+. Hein. Et c'est vrai que d'un point de vue de, enfin moi je découvre un petit peu ce monde là de YouTube et effectivement c'est une l'intégration avec YouTube est vraiment excellente. Mais voilà, par exemple personnellement c'est vrai que dans mon entourage j'ai pas des tonnes de gens sur YouTube, mais bon pas mal de mes subscribers comme on dit américains sont sur Google+. Donc voilà.
Allez, rendez-vous sur Google Plus aussi pour me retrouver, Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur Twitter également. Et puis, normalement, dans 15 jours, pour un nouvel épisode de Tech Café. Vous pouvez également, bien sûr, nous envoyer vos tweets à Tech Café _FR. On n'a pas réussi à avoir autre chose, donc c'est le meilleur nom Twitter qu'on ait trouvé. Terrible. Et surtout, vous pouvez commenter sur SoundCloud, ce qui va être d'autant plus pratique dans le cadre de ce débat, parce que vous le savez, sur SoundCloud, vous pouvez commenter à un endroit précis de l'émission, ce qui est quand même plutôt pratique. Merci vraiment vivement à tous les deux, Will et Aurélien, d'avoir pris le temps d'échanger ensemble dans Tech Café. On vous dit à bientôt dans vos émissions, vos chaînes respectives, et puis au plaisir de vous entendre peut-être à l'avenir. À bientôt.
Ciao. Merci pour l'invitation.
Salut. Je crois que tu étais fâché, tu me suis raccroché.
Non. Voilà. Je vous dirai pas ce que j'ai fait.
Non, parce que je trouvais ça très drôle. Allez, c'est parti.
Non, je voulais réinitialiser l'enregistrement de call recorder et en fait, j'ai coupé l'appel.
Ah oui, non, mais.
Alors, Aurélien, maintenant, t'apparais avec un triangle jaune.
Un triangle jaune, ça veut dire pas bon, pas bien, tout ça.
Ouais, mais en même temps, je t'entends bien. Donc...
Ouais. Attends.